passion moderniste.
Vive le roi !
Le podcast qui éclaire.
Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
L'histoire moderne.
La terre est proche.
La thèse est osée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses en master ou en thèse qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Le but de ce podcast est vraiment de vous faire découvrir des choses sur l'histoire, même si vous n'y connaissez rien. Épisode 44. Cécile et le Rhône à l'époque moderne, c'est parti.
Il y a des gens que ça intéresse ce...
Personne.
On a déjà exploré les océans et les mers dans ce podcast, des espaces très importants pour l'époque moderne, avec des échanges de tout type. Eh bien, aujourd'hui, nous allons encore naviguer, mais sur un fleuve, le Rhône. Et notre guide, notre capitaine, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est Cécile Bournacara. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Alors Cécile, donc tu fais une thèse depuis 2021, sous la direction de Anne Montenac, sur le sujet « Le Rhône comme observatoire des pratiques économiques illicites entre Lyon et la Méditerranée, du milieu du XVIIe siècle au XVIIIe siècle ». Donc voilà, aujourd'hui, avec toi, vraiment, on va explorer cette entité, cet espace géographique, mais en même temps une frontière. Voilà, tu vas nous raconter tout ça et en quoi ça permet de savoir plus sur l'époque moderne, notamment à travers les pratiques illicites. Oulala, voilà, on est vraiment dans... J'aurais dû mettre ça comme titre peut-être, hein, les pratiques illicites, mais non, on va vraiment surtout parler du Rhône aujourd'hui. Donc déjà, première question, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ?
Merci pour ta question. Donc, je ne dirais pas que j'ai voulu travailler sur le sujet au départ, c'est vraiment un sujet qui s'est construit progressivement avec ma directrice de thèse, donc Anne Montenac, qui n'était pas encore à l'époque. Au départ, moi, comme idée, je voulais prolonger mes travaux de master qui portaient sur la fraude et la contrebande, donc déjà l'illicite, à Lyon et dans le Lyonnais, entre les années 1674 et 1791.
Ah oui, on était vraiment très proches, ouais.
Oui, on était très proches et l'idée, c'était d'étendre un peu à la région, en fait, de la vallée du Rhône, puisque cet espace du sud-est de la France avait été peu étudié, en fait, pour la fraude et la contrebande. Mais on s'est rendu compte que cette approche n'était pas très innovante, c'était une monographie locale, mais qui n'apporterait pas vraiment grand-chose. Et après plusieurs temps de réflexion, on s'est rendu compte que le Rhône était la donnée structurante de cette vallée, que c'était un axe commercial fréquenté, un axe frontière, et on s'est dit qu'il pourrait être intéressant en fait, d'étudier l'illicite à partir du Rhône, comme observatoire justement, avec une approche aussi d'histoire environnementale qui pourrait justement un petit peu renouveler ces approches-là de l'économie illicite. Et surtout, c'est très intéressant puisque le Rhône n'a fait l'objet d'aucune synthèse historique sur la période moderne.
Mais ça, c'est fou. Comment ça se fait ?
Oui, alors ça, c'est une très bonne question qui me hante depuis le début de ma thèse. Et je ne peux pas vraiment y répondre de manière très convaincante.
Il n'y a pas assez d'historiens à côté de Lyon pour s'intéresser au Rhône ?
Il y en a, et il y en a un notamment pour la période médiévale. C'est Jacques Rossio qui a beaucoup étudié le Rhône dans les années 2000. Il a fait un dictionnaire du Rhône médiéval en 2002 et un ouvrage consacré au Rhône en 2007. Donc vraiment, il a bien balayé le chemin et le champ pour la période médiévale. Mais pour ce qui est de la période moderne, il n'y a rien. Les historiens antiques, les archéologues ont un peu traité le Rhône. Pour la période moderne, Anne Conchon, j'y pense notamment, puisqu'elle a étudié en fait les péages en France, et donc elle a forcément abordé un petit peu le Rhône, mais sans se concentrer sur le fleuve en lui-même. C'est plutôt dans les revues locales qu'on va trouver des articles sur le Rhône par des passionnés, des chercheurs amateurs, mais qui font des articles de très bonne qualité. Je pense notamment à une revue ardéchoise, c'est l'association Mémoire d'Ardèche étant présent, qui a vraiment proposé, pareil, dans les années 2000, quelques articles de revue sur le Rhône moderne. Mais à part ça, il n'y a rien. Donc le Rhône n'a pas bénéficié des mêmes travaux que ses voisins ligériens, garonnais ou rhénans. Les raisons qui peuvent expliquer cela, au début, je me suis demandé si ça pouvait venir des sources. Parce que c'est vrai qu'il y a une abondance de sources. Et il y a beaucoup de dépôts d'archives à visiter, hein, qu'ils soient nationaux, ici à Paris, mais aussi...
Tu veux dire que les gens auraient été feignants un peu ?
Oui, ou intimidé peut-être, il y a des dépôts départementaux, municipaux, mais néanmoins, je pense que c'est la même chose pour la Loire, pour le Rhin, enfin donc c'est pas très convaincant comme explication. Et une autre explication peut-être viendrait dans le fait que la mémoire du Rhône reste à construire et son patrimoine à valoriser, puisque en fait, on y reviendra, mais le Rhône a beaucoup changé depuis l'époque moderne. Et tous les travaux d'aménagement, les grands travaux d'aménagement du 19e et surtout du 20e siècle ont un petit peu en fait coupé, je pense, les Rhodaniens de leur fleuve. Et ils n'ont pas forcément conscience que celui-ci a une histoire ou qu'elle est intéressante. Un des exemples les plus flagrants, c'est la ville de Valence, donc Valence dans la Drôme, qui est traversée en fait par l'autoroute A7 et qui est littéralement coupée du Rhône. C'est-à-dire qu'il y a l'autoroute entre la ville et le Rhône. Donc les Valentinois n'ont pas vraiment accès au fleuve et je pense qu'ils ont du mal à se rappeler que c'était une ville voilà, pleinement rhodanienne, avec un port actif et autres. Donc je pense qu'on peut trouver des choses à dire de ce côté-là, du moins ce patrimoine qui reste à valoriser.
Donc on est aujourd'hui sur un vrai épisode un peu pionnier, on peut dire avec toi. Vraiment, on va apprendre des choses et peut-être ça inspirera d'autres personnes, peut-être se lancer à travailler sur le Rhône aussi après. Alors, j'ai aussi une question avant qu'on entre un peu plus dans le concret. Est-ce que tu étudies autant l'histoire que la géographie avec ta thèse ?
Alors ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est un sujet qui se prête bien aussi aux approches géographiques. Je ne dirais pas cependant que j'étudie autant l'un que l'autre, puisque je reste historienne. Et bah, mon matériau principal de travail, c'est les archives, les sources historiques. Mais il est vrai que je lis beaucoup d'ouvrages de géographie, je m'inspire de certaines méthodes aussi de cette science sociale. Notamment, j'accorde de l'importance aux échelles d'observation spatiale. Je m'intéresse aux circulations, je produis des cartes. Donc la géographie est importante pour moi et vraiment ce croisement des disciplines est important pour la thèse. Mais je reste quand même historienne avant
tout. C'est plutôt rare en fait. On voit pas mal de thèses qui forcément se mêlent à l'archéologie, à la sociologie parfois, mais ouais, à la géographie, c'est plutôt rare. Donc je suis contente qu'on te reçoive aujourd'hui pour ça. Alors, donc maintenant, rentrons un peu dans le sujet. Et raconte-nous quel est le contexte historique de l'époque que tu étudies.
J'étudie donc les trafics clandestins sur le Rhône entre voilà, le milieu du XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc en fait, c'est les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Mais il y a beaucoup de contextes en fait qui se croisent pour mon sujet. On va commencer par le contexte économique peut-être, puisque donc à la milieu du XVIIe, fin XVIIe, on a des réformes notamment initiées par Colbert, donc qui est aux finances. Et ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est la création de la ferme générale. Donc en 1664, c'est une institution en fait qui est très importante sur le Rhône. La ferme générale, c'est une compagnie de financiers privés à laquelle le roi va déléguer le prélèvement de l'impôt indirect en France.
Donc on voit que donner des choses au privé, c'est pas nouveau en fait. Ça existe depuis longtemps.
Effectivement, ce n'est pas nouveau. Et cette institution, elle est importante puisqu'elle va percevoir l'impôt, mais elle va aussi se charger de la répression des fraudes et de la contrebande. Donc c'est pour ça que je l'observe sur le Rhône. C'est une période, donc moi je qualifie parfois de long 18e siècle aussi, parce qu'il y a une cohérence notamment dans l'essor des consommations et la globalisation aussi de ces consommations que je vois sur le Rhône. En termes militaires, puisque l'histoire militaire aussi se trouve sur le Rhône, on a des périodes de guerre qui sont assez marquées. Et le Rhône est important parce que c'est un axe d'approvisionnement pour approvisionner les troupes. Je pense à la guerre de succession d'Espagne en 1701-1713. Il y a un front en fait en Dauphiné, et donc le Rhône va servir pour apporter du fourrage, apporter des grains aux troupes. Et également, le Rhône permet de ravitailler l'arsenal de Toulon. Donc, et ça... pour les besoins de la marine, donc en bois, et on le voit bien, donc il y a cette dimension militaire qui est importante. Et plus ponctuellement, on a des guerres aussi, comme la guerre des Cévennes, donc de 1702.
Ah, je connais pas ça, tiens.
Oui, c'est là qu'on appelle aussi guerre des Camisards.
Ah oui, oui d'accord, voilà, ok.
Voilà, c'était donc 1702-1704, certains la font aller jusqu'à 1710. Et donc, bien sûr, le Rhône va être surveillé à ce moment-là, puisque en fait, on a des protestants qui passent par le Rhône pour essayer de fuir, gagner la Suisse, gagner d'autres pays. Donc le Rhône va être militarisé sur certains tronçons, surveillé par les troupes. Donc bien sûr, il y a ce contexte militaire-là qui est important. Il faut également prendre en compte un essor dans les années 1710-1720 des bandes armées de contrebandiers. C'est vraiment un phénomène qu'on voit arriver, qui transporte en fait des marchandises à travers le fleuve. Et donc là aussi, il va y avoir tout un tas de mesures pour essayer de contrôler et réprimer ce phénomène. Et enfin, d'un point de vue environnemental, puisque je le disais au début, il y a un aspect environnemental. Mon sujet se situe dans le petit âge glaciaire, donc qui a lieu voilà, du 14e siècle aux années 1860, disons.
C'est quoi le petit âge glaciaire ?
C'est un refroidissement en fait qu'il y a eu de la planète et qui s'est marqué voilà, en Europe par des hivers très rigoureux, très froids. Et donc sur le Rhône, je le vois, puisqu'il arrive régulièrement que le Rhône soit gelé pendant plusieurs jours, et même dans les zones les plus méridionales, Arles, Beaucaire par exemple.
Ah ouais ? Mais alors, je ne t'ai pas demandé aussi, mais pourquoi est-ce que tu as choisi cette temporalité d'études ? Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur le Rhône sur cette période-là ?
Alors en fait, c'est surtout lié à l'existence de la ferme générale, puisque comme c'est une actrice très importante pour moi, elle va conditionner en fait la production de sources avec cette répression qu'elle va mettre en place pour essayer d'endiguer les trafics clandestins. Donc il y a des procès-verbaux qui sont produits, ensuite il y a toute une procédure judiciaire qui va se mettre en place, et ça me fournit beaucoup de sources. Donc c'est vraiment lié à cette ferme générale et aussi à cette période, voilà, d'essor du commerce, de globalisation.
Donc en quelle année la ferme générale ?
C'est 1664 et elle se termine en 1794 avec donc l'exécution des fermiers généraux.
On en parlera peut-être à la fin. Alors, donc tu travailles sur le Rhône, un des plus grands fleuves de France. Déjà, décris-nous-le physiquement. Est-ce qu'il est à peu près comme aujourd'hui ou pas ? Alors, tu as commencé à dire que non, pas tout à fait.
Oui, là, c'est un très grand défi que tu me proposes, puisque effectivement, le Rhône était très différent par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui.
Parce qu'on dit un fleuve, ça change pas énormément quand même, un fleuve en soi. Et en fait, si.
Alors oui, bien sûr, il prenait sa source au même endroit, donc en Suisse, dans le glacier qui porte son nom, c'est le glacier du Rhône, au cœur du massif Saint-Gothard. Et bien sûr, donc il finissait sa course dans le delta de la Camargue, ça ne change pas.
Dans les Bouches-du-Rhône.
Dans les Bouches-du-Rhône, tout à fait. Mais son cours et son tracé étaient très différents. Et une très bonne façon de se rendre compte, c'est, si les auditeurs le veulent, d'aller sur Géoportail et de superposer la carte de Cassini, donc qui est une carte du XVIIIe siècle, qui est en fait la plus complète sur le Rhône, la seule à représenter le Rhône en fait, alors pas sa source, parce qu'une Cassini ne va pas jusqu'en Suisse, mais voilà, de la partie française du moins du Rhône à la mer, et de la superposer avec une carte actuelle. Et on voit vraiment des différences assez incroyables, notamment dans une zone entre Donzère et Mondragon, donc c'est dans la Drôme, dans le sud de la Drôme, Donzère, puisqu'il y a tout un canal de dérivation qui a été créé, le Rhône a été canalisé en et donc on voit vraiment, il y a des différences très flagrantes.
Mettrai le lien sur le site passionmedievis.fr, il y a l'onglet passion moderniste, je mettrai le lien, allez voir sur l'article de l'épisode. Hein. Et je mettrai, je pense qu'on va, je ferai une petite comparaison des deux cartes, comme ça les gens pourront avoir un aperçu comme ça aussi.
Oui, ça c'est vraiment flagrant, surtout en vue aérienne, on s'en rend bien compte, puisque c'est vraiment ces années 50, surtout ces grands travaux d'aménagement, alors de la Compagnie Nationale du Rhône, pour les barrages hydroélectriques, il y a aussi tous les aménagements pour les centrales nucléaires, puisque donc, le Rhône est vraiment utilisé pour produire de l'énergie.
Oui, donc là on est vraiment au 20e siècle.
Siècle, les aménagements aussi des voies navigables de France pour faciliter le transport fluvial ont totalement modifié le cours du Rhône, son tracé. Et donc, pour se le représenter, le Rhône moderne, finalement, je dirais qu'il faut avoir un peu d'imagination, mais il faut penser à un fleuve puissant et destructeur, capricieux, imprévisible, qui est vraiment enserré dans cette vallée qui conditionne finalement sa trajectoire. Et sous l'influence du changement climatique, du petit âge glaciaire, il est passé en fait de méandres médiévaux à un paysage de tresses. Donc c'était vraiment un fleuve en tresses qui sont plus ou moins denses selon les secteurs. Et son lit, il est parsemé d'îles, parsemé de graviers qui apparaissent, qui disparaissent au fil des crues. Le lit peut se modifier. On le voit notamment en 1711, il y a un changement de lit au niveau du delta du Rhône. Et ses rives abritent en fait une végétation assez dense.
Mais du coup, est-ce qu'on... Alors, j'imagine que tu as un peu regardé aussi un petit peu les autres fleuves de France, mais quelle différence a le Rhône à l'époque avec, par exemple, on dit la Loire est encore aujourd'hui un fleuve sauvage qui est beaucoup moins endigué et tout ça. Mais est-ce que tu pourrais dire, du coup, quelles sont les spécificités du Rhône par rapport aux autres fleuves qu'on a en France, comme la Loire ?
Les spécificités du Rhône, elles résident déjà dans le fait qu'il traverse beaucoup de climats en fait très différents. Donc ça va marquer effectivement sous l'influence aussi des affluents qui sont par exemple, je pense à la Durance notamment dans le sud qui est un affluent torrentiel, donc qui va générer des crues qui sont pas les mêmes en fait selon les tronçons du Rhône. On a aussi un débit qui est très important, une pente qui est forte, puisque le Rhône dessine une forte pente, donc un fleuve quand même très rapide et peut-être plus dangereux que les autres fleuves, avec des temps de parcours, on pourra en reparler, mais qui ne sont pas toujours évident pour les bateliers.
J'avais jamais pensé à ça, que du coup certains fleuves vont plus vite que sur d'autres. Vraiment, j'avais jamais juste pensé à ça. Et donc tu l'as dit, au XXe siècle, on a vu des aménagements, mais déjà à l'époque moderne, à quel point est-ce qu'on maîtrise le fleuve ?
Ça, c'est intéressant, puisqu'effectivement, on va revenir sur ce cliché, tout ne se joue pas à l'époque contemporaine. Hein. Les Rhodaniens ne sont pas restés passifs face au fleuve, bien sûr. Je dirais pas qu'ils l'ont maîtrisé, puisqu'ils ne l'ont pas maîtrisé. Le fleuve voilà, débordait très régulièrement et faisait beaucoup de dégâts, mais en tout cas, ils essayaient de l'aménager. L'aménager, c'est-à-dire avec des digues pour se protéger des crues, avec des ponts pour essayer de le franchir, des moulins pour profiter de l'énergie du Rhône. En ville, on avait des quais qui étaient construits justement, et des ports pour pouvoir un petit peu gérer ce trafic fluvial, l'organiser. Donc par endroit, il est aménagé, ce fleuve, mais on a des conflits qui vont freiner notamment un aménagement qui serait plus finalement homogène sur l'ensemble du Rhône. Je pense à un conflit qui a opposé une communauté donc provençale, barbantane, aux pères chartreux donc de Villeneuve-les-Avignon, qui, eux, installaient justement dans le Rhône des digues et ce qu'on appelle des palières. Donc des palières, c'est des palissades, en fait, qui sont placées donc dans le Rhône pour se protéger de ses eaux. Et donc, eux, ils installent ça pour augmenter leur terrain. Le problème, c'est que ça détourne le cours du Rhône et donc ça fait des inondations sur le terroir de Barbantane.
Ah oui.
Et donc, il y a des conflits, ça part en justice pour voilà, essayer de régler cette question des aménagements. Et c'est un sujet voilà, qui est vraiment passionnant, mais moi, je le traite assez partiellement dans ma thèse, je le vois, mais il y a quand même beaucoup de choses à en dire. Et heureusement, il y a un doctorant qui est en première année, Tito Mansouquet, qui va consacrer une thèse justement aux aménagements du Rhône, alors dans le Delta seulement. Et il travaille sous la direction de Stéphane Durand et Giacomo Parinello. Donc voilà, je suis contente de voir qu'il y a de nouvelles choses qui vont être créées sur le Rhône.
Mais alors, qui domine humainement le Rhône, en fait ? Est-ce qu'on peut dire que la France possédait le Rhône ?
On peut le dire, puisqu'au premier abord, on a l'impression que c'est simple à l'époque moderne. On a toujours l'impression que c'est plus simple qu'à l'époque médiévale, même si en réalité ce n'est pas le cas. Mais c'est le roi de France, tout à fait, qui est propriétaire du Rhône et en fait de toutes les rivières navigables. Donc le Rhône en fait partie. Ça fait partie de son domaine, du domaine royal. Mais dans les faits, bien sûr, c'est toujours un petit peu plus complexe, puisque les propriétés seigneuriales, elles n'ont pas été totalement abolies. Donc on a par exemple des péages ou des bacs pour franchir le Rhône qui appartiennent à des nobles, à des seigneurs. Par exemple, sur le Rhône, vous avez les péages qui sont vraiment la possession de grands princes, en fait, qui appartiennent à la noblesse distinguée, le prince de Soubise, le prince de Conti, le prince de Monaco. Certains bacs pour franchir le fleuve appartiennent aussi à des seigneurs, nobles ou ecclésiastiques. C'est par exemple le cas des bacs pour franchir le Rhône entre Villeneuve-les-Avignon et Avignon. Comme il y a en fait une île entre les deux, l'île de la Barthelas, c'est un système de double bac, et c'est le duc de Cadrousse qui en est le propriétaire.
Et est-ce que la Suisse, parce que je sais pas d'ailleurs à l'époque moderne qu'est-ce que c'est, mais forcément le fleuve vient de là-bas, donc est-ce que il y a quand même un conflit pour cette zone-là ou pas ?
Alors c'est une zone que je n'étudie pas du tout dans ma thèse, puisque moi je me limite en fait vraiment à Lyon, je commence à Lyon, puisqu'après effectivement la Savoie qui n'était pas française à l'époque, la Suisse aussi qui n'était pas la Suisse, il y avait voilà la République de Genève et autres petits états, et là c'est une bonne question, je pense qu'il devait y avoir des conflits aussi, en tout cas moi je les observe un peu plus au sud, avec le pape, du coup dans le comte avenessin et surtout à Avignon, là j'observe des conflits, mais généralement de toute façon le roi reste sur sa ligne pendant toute l'époque moderne et défend cette propriété du Rhône.
Une chute vertigineuse, plus de 700 mètres vers la vallée. C'est le début de l'aventure. Le Rhône traverse le sud de la Suisse. Il plonge ensuite dans le lac Léman pour ressortir plus fort côté français. Sauvage et impropre à la navigation, il reçoit le renfort de la Saône à Lyon. La route s'élargit alors. Cap vers le sud. Bientôt, la Méditerranée. Au total, le fleuve parcourt 812 km, traverse deux pays, une dizaine de départements. Un Rhône aux multiples visages, contrastés.
Déjà, on a bien compris comment était le fleuve. Alors, maintenant, raconte-nous quelle est la place du transport fluvial par rapport au transport peut-être par la route à l'époque. Parce que, en fait, si on réfléchit à l'époque, on peut transporter les choses que de deux façons, en fait. La route ou l'eau, que ce soit les océans. Mais du coup, comment ça se passe le transport sur les fleuves ?
Effectivement, on a un transport fluvial qui est distingué du transport maritime et qui apparaît comme un moyen de transport, je dirais, complémentaire, en fait, à la route, puisque c'est un moyen de transport qui est apprécié car il est réputé comme plus sûr que la route, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances de rencontrer de brigands ou de bandits de grand chemin, en fait, sur le fleuve. Mais au fil du temps, notamment au XVIIIe siècle, le réseau routier a tendance à s'améliorer, ce qui fait reculer la place du transport fluvial, puisque même s'il est vu comme plus sûr, il y a quand même des risques en naviguant, des risques de naufrage, de perte de marchandises, avec beaucoup de, comme je l'ai dit, d'aléas, hein, de crues, d'inondations. Donc généralement, les marchandises qui vont transiter par le Rhône, c'est des marchandises de peu de valeur. Des marchandises lourdes, parce que c'est plus facile de les faire passer sur le Rhône, donc par exemple des pondéreux, des matériaux de construction, du bois, et bien sûr le sel, qui est la marchandise reine sur le Rhône.
Le sel ?
Oui.
Bon ?
Oui, il remonte des salins méditerranéens, donc principalement les salins d'Arles, les salins d'Aigues-Mortes, les salins de Létang-de-Berre et de Hyères, donc en Provence. Et ensuite, ils sont chargés donc sur des barques et ils remontent le Rhône pour approvisionner en fait les différents greniers qui sont échelonnés au fil du fleuve.
Alors, j'ai une question très naïve, hein, mais effectivement, bon, oui, je vois comment on peut descendre un fleuve en étant dans le sens de la navigation, mais comment est-ce qu'on remontait un fleuve à l'époque moderne ? Parce qu'aujourd'hui, on a des moteurs, mais à l'époque, en fait, comment ils faisaient ?
Eh bien, ils faisaient avec les moyens du bord et ils utilisaient la traction animale notamment. En fait, ils avaient recours à ce qu'on appelle le halage, donc c'est-à-dire que les bateaux étaient tirés. Il y avait des cordes qui reliaient donc les bateaux à des animaux, donc des chevaux, mais il y avait aussi des bœufs et même des hommes qui étaient chargés donc de tirer les bateaux et de les faire remonter.
Donc c'était beaucoup plus lent de remonter que de descendre, on est d'accord ?
Oui, oui, c'était beaucoup plus long. Alors la descente du fleuve, on est, quand les conditions sont bonnes, bien sûr, entre 3 et 7 jours pour faire Lyon-Arles. La remontée, on est minimum 15 jours et ça peut doubler. On peut atteindre les 40 jours pour rejoindre Lyon depuis Arles avec les conditions comme le Rhône gelé que j'évoquais qui oblige l'équipage donc, à attendre.
Oui, en plus, pour remonter, il faut qu'il y ait tout le temps une route le long du fleuve, parce que ça aussi, c'est pas forcément évident.
Oui, il y a ce qu'on appelle ça un chemin de halage qui doit être entretenu par les communautés, justement, pour faciliter le passage des haleurs.
Et à l'époque, quels sont les plus grands ports sur le Rhône, les principaux pôles d'échange ?
Alors ça, c'est une question qui est assez difficile. Anne Conchon, qui a justement travaillé aussi sur les ports, notamment les ports fluviaux, explique bien qu'il est délicat, sur la longue durée du moins, de déterminer des hiérarchies portuaires. Mais dans mes tours, je vois bien quand même qu'il y a des ports plus importants que les autres, notamment Lyon, bien sûr, hein, on s'en doute, mais c'est le principal pôle d'échange sur le Rhône, donc entre le Rhône et la Saône, voilà, avec cette confluence, c'est un carrefour en fait commercial vers l'Europe du Nord, l'Europe méditerranéenne, et même vers d'autres destinations plus lointaine grâce à des connexions avec le port de Marseille et donc le Levant notamment. Si on reste dans la région lyonnaise un peu plus au sud, on a Condrieu qui est un port important qui notamment a une communauté batelière très soudée qu'on retrouve beaucoup donc sur les bateaux du Rhône, hein, beaucoup de bateliers de Condrieu qui naviguent le Rhône et qui le remontent. On a Serrières ensuite qui est en Ardèche actuellement, qui était aussi un port avec une forte communauté batelière. Puis ensuite vient Valence, le principal port donc du Dauphiné. Puis les villes jumelles, on a beaucoup de villes jumelles sur le Rhône, je pense à Villeneuve-les-Avignon-Avignon par exemple, qui sont des ports importants, Beaucaire et Tarascon bien sûr, et enfin Arles, donc le grand port en fait aussi du sud, donc en connexion avec le Delta, en connexion avec Marseille, le port franc de Marseille, la Méditerranée, donc c'est un pôle en fait de transbordement des marchandises où les marchandises arrivent par le Rhône et ensuite elles sont réparties pour partir par la voie maritime notamment ou après par la voie terrestre.
Et est-ce qu'il y avait à l'époque des ports importants sur le fleuve qui n'existent plus aujourd'hui ou alors qui ont vraiment considérablement perdu leur importance ?
Oui, tout à fait. Des ports comme Condrieu ou Serrières,
oui.
Par exemple.
Oui, quand tu dis Condrieu, je dis, mais je connais pas Condrieu.
Voilà, ce sont aujourd'hui des petits ports de plaisance éventuellement, mais ils n'ont plus du tout l'importance qu'ils avaient à l'époque. De toute façon, même actuellement, le transport fluvial n'est pas extrêmement développé et on a des grands pôles comme Lyon, mais oui, Condrieu, Serrières, et c'est vraiment quelque chose qui peut être ramené à notre mémoire grâce à la présence d'anneaux, les anneaux d'amarrage, en fait, qu'on retrouve. Il y en a à Serrières, il y en a à Ancône aussi dans la Drôme, et donc ça rappelle le souvenir, voilà, d'un port fluvial, mais qui n'est plus utilisé aujourd'hui.
Tu veux dire que les anneaux qu'on peut voir aujourd'hui là-bas sont les anneaux de l'époque moderne ?
Oui.
Mais c'est fou, ça !
Peut-être même était-il déjà utilisé à l'époque médiévale.
Ah, j'avais jamais pensé que ça pouvait être les vrais anneaux depuis cette époque-là. Oui, en même temps, pourquoi les changer s'ils tiennent bien
ouais. Oui, oui.
Ah, c'est fou. Donc, on l'a un petit peu dit, comment est-ce qu'on navigue, mais raconte-nous à quoi ressemblent les bateaux de l'époque ? Est-ce qu'il y avait différents types ?
Alors, c'est une très bonne question et vous allez rapidement voir que je suis une piètre historienne des techniques. Donc, je vois passer beaucoup de bateaux. Il y en a plusieurs types, ça je peux le garantir, puisque je les vois dans les sources, mais je ne sais pas vraiment vous les décrire ou dire à quoi ils correspondent. Mais je pense que ce serait d'ailleurs très intéressant de comparer peut-être avec des données archéologiques, s'il y en a, s'il y a des bateaux modernes qui ont pu être retrouvés pour...
Toi, tu fais pas ça, en fait, dans ta thèse, sinon ce serait trop de boulot, non ?
Voilà, en fait, j'ai ouvert plein de chantiers avec ma thèse. Après, je me dis, moi, je me concentre sur les trafics clandestins, mais il y a beaucoup de choses sur le Rhône, oui, comme il n'a pas été étudié. Mais oui, les bateaux, il y en a beaucoup. Dans les sources, donc, j'ai pu voir une mention de barques, tout simplement, de barquets, de gabarres, de savoyardeaux, de penelles, de Cisland ou Cessland. Donc, on voit déjà des bateaux très régionaux, puisque savoyardeaux, ça renvoie à la Savoie. Cisland, Cessland, ça renvoie à Seyssel. En fait, qui est la première ville du Rhône, elle est en amont de Lyon, à peu près à 150 km de Lyon. Et à partir de Seyssel, le Rhône est navigable. Donc, on a ces bateaux voilà, qui viennent de là. On a également des allèges qui sont mentionnés. Et il y a sur le Rhône aussi des bateaux d'un type particulier, c'est les radeaux en fait, qui sont, il n'y a personne pour les conduire, en fait ils descendent le Rhône, vraiment c'est des bouts de bois attachés qui servent à fournir voilà les communautés en bois, et donc eux ils descendent le Rhône, voilà sans personne à bord, on appelle ça le flottage.
Donc juste en fait, c'est hop, allez, va petit bois et on voit qui arrivera à te récupérer quoi.
Exactement.
Et tu l'as dit, effectivement, on a aussi des connexions avec la Méditerranée. Donc là, déjà, entre Lyon et la Méditerranée, on est sur deux espaces très différents. Comment ça se passe, du coup, la navigation sur le Rhône entre ces deux espaces ?
Eh bien, tout passe, si je puis dire, par le port de Marseille, qui va vraiment concentrer justement ces flux de marchandises. Et donc, grâce à ce grand centre de redistribution, on a des marchandises qui viennent du Nouveau Monde, du Levant ou d'ailleurs, et qui peuvent ensuite remonter le Rhône et donc être distribuées. Même si, c'est vrai que beaucoup de ces marchandises passent plutôt par la route, puisqu'elles vont être précieuses, mais on en trouve quand même un petit peu sur le Rhône. Et il y a un point de connexion important qui est la foire de Beaucaire, puisque Beaucaire donc, est une grande ville de foire au mois de juillet. Autour de la Sainte-Madeleine, donc on l'appelle parfois la foire de la Madeleine. Et donc à ce moment-là, on a vraiment des marchands qui viennent du monde entier et qui échangent donc pendant une semaine et plus sur les bords du Rhône, donc à Beaucaire. Et donc on retrouve des Italiens, des Espagnols, mais des personnes en fait de toute la Méditerranée.
À l'époque, quand on pense Levant, on pense à l'Empire ottoman. Est-ce qu'on retrouve des Ottomans en fait et des marchandises qui viennent de cet Empire ottoman dans le port de Marseille ?
Oui, tout à fait, on en retrouve dans le port de Marseille.
Alors raconte-nous, justement, arrivons à ces marchandises. Alors déjà, on va regarder un peu le commerce légal. Donc quels sont les biens échangés dans le cadre du commerce légal ?
Alors, ils sont très divers, ces biens échangés dans le cadre du commerce légal. D'après Gaston Rambert, donc lui qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du commerce, les bateaux rhodaniens peuvent transporter des denrées agricoles, du bétail, du vin, des matériaux de construction et finalement toutes sortes de marchandises lourdes, donc de l'acier, du charbon, du fer, du bois. C'est un trafic, on l'a déjà dit, mais qui est vraiment alimenté par la présence de Lyon et de son vaste marché de consommation et par le port de Marseille, bien sûr via lesquels certains produits exotiques donc, peuvent remonter le Rhône. Mais le sel est évidemment la marchandise reine, donc sur le fleuve. On a aussi d'autres marchandises un peu plus sensibles qui transitent sur le Rhône. On évoquait au début les guerres, les conflits militaires, donc on a des marchandises militaires destinées donc, à l'arsenal de Toulon qui peuvent circuler, des cordes, des planches par exemple, et qui descendent donc le Rhône pour les besoins de la marine royale. Mais pour ce qui est des biens ensuite qui sont échangés, parce qu'en fait, il n'y a pas que la navigation, il y a aussi toutes des circulations à travers le Rhône, par les ponts, par les bacs. Et donc là, c'est vraiment très divers. On a des outils, des livres, des étoffes, de la viande, des légumes, tous les produits en fait, du quotidien, de consommation courante.
Oui, j'avais pas pensé effectivement que tu aussi tu étudies les points de connexion, donc comme tu as dit, comme les ponts et les bacs.
Oui, tout à fait.
Et alors, par opposition, on y arrive enfin. Qu'est-ce qui était recensé comme illicite à l'époque et donc comme marchandise illicite ?
Alors, une marchandise illicite, selon Furtière donc, et son dictionnaire, il la définit comme ce qui est défendu et qui n'est pas permis par les lois. Donc, relève du commerce illicite toutes les marchandises vendues en fait en dehors du cadre réglementaire. Donc, soit des marchandises interdites, tout simplement, soit des marchandises qui ne sont pas en règle avec la législation en place, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé les bonnes taxes. Voilà, ces taxes n'ont pas été acquittées, donc ce sont des marchandises frauduleuses.
Mais est-ce que tu comptes aussi là-dedans les marchandises volées ? Parce que là, en fait, elles pourraient venir du commerce légal et elles sont devenues illicites parce qu'elles ont été volées.
Oui, tout à fait. Les marchandises volées entrent dans mon analyse.
Et donc concrètement, ça peut être quoi un objet illicite ?
Alors, on peut par exemple, on parlait beaucoup du sel ou du tabac. Ce sont deux marchandises qui sont à l'époque soumises à des monopoles d'État. Donc, c'est-à-dire, on peut seulement consommer du sel ou du tabac qui provient de ce monopole, qui a été acheté donc dans le cadre de ce monopole. Donc, c'est un monopole qui est géré par la ferme générale, la fameuse ferme générale. Alors, pour le tabac, il y a des périodes où cela s'interrompt, ce n'est plus la ferme, mais globalement, voilà, elle va gérer ce monopole-là. Et quand vous voulez vous approvisionner en dehors du monopole à un prix moins cher, eh bien, on est tout de suite sur des produits qui sont considérés comme faux. On parle de faux sel, de faux tabac. Et donc là, on est dans de l'illicite.
Et alors, qui fait du commerce illicite et pourquoi ? Est-ce que c'est que pour l'argent ou peut y avoir d'autres raisons ?
Dans mes sources, j'ai pu recenser des soldats, des mariniers, donc ce sont les personnels navigants en fait, donc du Rhône, des membres du clergé, des bourgeois, des domestiques, des vagabonds. Donc c'est vraiment très divers.
Donc tout le monde en fait.
Tout le monde. Après, il y a des catégories bien sûr qui reviennent plus souvent à l'image justement de ces gens du fleuve, des travailleurs de terre ou alors des marchands. Mais une des spécificités du Rhône que j'ai pu constater, c'est l'écrasante domination masculine. C'est-à-dire que plus de 90% des personnes qui sont arrêtées au bord du fleuve sont des hommes. Donc cela peut s'expliquer par le fait que les femmes ne naviguent pas. Et aussi, peut-être, les femmes, on le sait maintenant, sont invisibilisées par les sources, beaucoup. Donc c'est pour ça que je ne les vois pas vraiment. Mais d'autres études sur la contrebande, la fraude, ont bien souligné la présence des femmes. Et sur le Rhône, vraiment, elles sont très minoritaires. Ensuite, pour répondre à la question de la motivation, qu'est-ce qui motive ces acteurs ? L'argent, c'est en effet le facteur dominant hein, qui va les motiver à se lancer dans des entreprises illicites. Donc cela a été bien montré avant moi, par exemple l'historien états-unien Michael Coas ou même ma directrice de thèse Anne Montenac. Mais certaines personnes vont se lancer dans le commerce illicite dans une logique de survie. C'est une stratégie de survie en fait, donc ça c'est vraiment quelques personnes pauvres qu'on retrouve et qui sont contraintes à faire de l'économie illicite pour pouvoir s'en sortir. Et il y a aussi quelques personnes qui sont, alors souvent des jeunes hommes, motivés par un rêve d'aventure et de liberté qui rejoignent des bandes plus importantes de contrebandiers, mais c'est vraiment une minorité d'acteurs et c'est très très spécifique et vraiment restreint.
Mais est-ce que tu vois pas peut-être, alors je romance un petit peu, mais est-ce qu'il y a peut-être des familles ou des dynasties de contrebandiers que tu pourrais retrouver au fil de tes sources ?
Alors, je n'ai pas vraiment repéré de dynastie de contrebandiers qui auraient régulièrement franchi le Rhône. En fait, je dispose d'assez peu d'informations sur ces profils-là de grands contrebandiers, parce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser des surnoms, déjà, donc c'est assez difficile de savoir de quelle famille ils sont et de les suivre. Néanmoins, j'ai parfois trouvé la trace de frères, de fratries qui étaient impliqués dans des trafics de contrebande de grande ampleur. J'ai un exemple, en fait, c'est les frères Clergue, Jean et François, qui sont tous les deux originaires du Vivarais, donc c'était le nom de l'Ardèche à l'époque, et ils sont connus pour être des contrebandiers de profession, donc ils agissent ensemble ou séparément, puisqu'ils sont arrêtés tous les deux, mais à quelques années d'intervalle. Jean est d'abord arrêté en 1727 et il est mis dans les prisons de Valence où il va réussir à s'en échapper. Et son frère, donc François, lui, il est arrêté le 29 décembre 1728 avec une bande de contrebandiers. Donc ils avaient du tabac en fait qui venait du comtat venaissin de Valréas qui les amenait en Languedoc. Donc ils franchissent le Rhône en fait au bac de Beauchastel qui est en Ardèche et ils vont se reposer dans un cabaret à Toulaud à proximité. Là, ils se font arrêter. François va essayer de s'évader, il va se prendre une balle et en fait il va mourir en prison des suites de ses blessures au début de l'année 1729.
Waouh, c'est fou que t'aies autant d'informations sur eux.
Oui, ça c'est une des rares procédures où j'ai beaucoup d'informations, donc c'est toujours intéressant de pouvoir un petit peu entrer dans ces milieux un peu plus en profondeur.
Mais est-ce que tu arrives à avoir une idée de l'impact de ce commerce illicite sur le commerce en général, sur les ressources du royaume ?
Il est effectivement très difficile de pouvoir estimer l'impact de ces commerces illicites, de ces pratiques sur les ressources du royaume. On a des économistes au XVIIIe siècle qui ont conscience que ça représente un manque à gagner, mais ils ne le chiffrent jamais précisément. Guillaume Le Trône ou Jacques Necker, donc respectivement dans les années 1770-1780, expliquent que pour réduire ces délits économiques, il faut en fait réformer le système des impositions indirectes, puisqu'ils estiment que c'est vraiment la disparité et l'hétérogénéité de ces impôts qui vont favoriser la fraude et la contrebande qui coûtent de l'argent pour en fait organiser la répression tout simplement. Du point de vue de la ferme générale et donc de ces compagnies de financiers qui sont fortement impactées par la fraude, par la contrebande, eux aussi c'est une véritable perte pour eux, donc ils se montrent très alarmistes, mais à ma connaissance ils ne donnent jamais de chiffres précis. Dans les sources, j'ai par exemple un petit exemple que je peux raconter. Donc c'est un adjudicataire, donc ce qu'on appelle le représentant en fait de la ferme générale, qui se plaint des bandes armées de contrebandiers et je cite, il écrit « La contrebande avec attroupement et à main armée qu'on ne peut considérer que comme une révolte et une rébellion aux ordres du roi détruit totalement les droits de ces fermes qui servent à soutenir les charges de l'État et à soulager le peuple. » Donc on sait que ça leur coûte, mais on ne sait pas précisément ce que ça leur coûte vraiment, enfin c'est pas chiffré.
Oui, donc toi tu n'arrives même pas à te rendre compte du pourcentage du commerce illicite par rapport au reste du commerce ?
Non, et puis le commerce illicite, c'est voilà quelque chose qui est volontairement caché, que l'on ne veut pas montrer. Donc moi, je vais le retrouver grâce aux sources judiciaires, mais bien sûr, il y a toute une partie qui nous échappe totalement. Donc même si on arrivait à pouvoir faire des calculs, il serait un petit peu banco et il y aurait beaucoup de biais.
Bah tiens, justement, voilà, enfin tu as déjà commencé à y répondre, mais bah oui, quand on fait de la contrebande, par définition, on veut passer inaperçu. Alors raconte-nous comment est-ce que tu arrives à documenter la contrebande. Donc on l'a compris un petit peu par ces procès, mais est-ce que tu as d'autres façons de la documenter ?
Alors oui, effectivement, là c'est la difficulté, hein, puisque tous, je pense, les historiennes, les historiens qui travaillent sur des phénomènes criminels, la criminalité, sont confrontés à ce même problème. Donc j'essaye de retrouver les traces de fraude, de contrebande dans les sources judiciaires, mais n'apparaissent en fait que ceux qui ont été réprimés, les entreprises criminelles en fait avortées. Et vraiment, je ne peux pas mesurer la réelle ampleur du phénomène, et donc je suis face, comme disait l'historien Xavier Rousseau, au chiffre noir de l'impunité, donc qui mesure en fait cet écart entre criminalité réprimée et criminalité réelle. Mais donc pour retrouver la contrebande, la fraude et toutes ces pratiques illicites, je travaille à partir d'archives judiciaires, donc qui émanent de tribunaux en fait compétents pour juger les affaires de commerce illicite entre Lyon et la Méditerranée, et ça en fait beaucoup puisqu'il y a beaucoup de tribunaux compétents, sans compter ceux qui sont appelés quand il y a un appel qui est en cours, les évocations, les tribunaux spéciaux, donc ça en fait beaucoup. Mais je m'appuie aussi sur des archives administratives, notamment des correspondances entre le contrôleur général des finances, donc celui qui chapeaute les finances dans le royaume, avec les intendants de province, par exemple. Et j'étudie un petit peu les archives militaires, que ce soit au service historique de la défense ou dans le fond du gouvernement militaire de Languedoc, aux archives départementales de l'Hérault, puisque voilà, les militaires vont aussi pouvoir gérer les cas de contrebande armée et de contrebande voilà, très problématiques, qui sont finalement des troubles à l'ordre public. Et la dernière ressource importante, ce sont les ressources iconographiques, les cartes, les plans, les gravures, en fait toutes les représentations du Rhône moderne pour m'aider un petit peu à comprendre ce fleuve.
Donc tu n'as pas de source de première main des contrebandiers. C'est évident, mais je préfère te demander quand même.
Non, malheureusement, j'adorerais, mais je n'ai pas du tout de source de première main, c'est que de la seconde main, donc bien sûr, ça comporte des lacunes et il faudra en tenir compte dans l'analyse.
Et dans ces sources que tu étudies, quels sont les mots qu'on utilise pour parler de la contrebande? Quels sont les, voilà, les termes de l'époque?
Alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, donc commerce illicite, ça n'existe pas. Pratique illicite, c'est vraiment un terme qu'on a mis en place avec ma directrice pour rassembler ces phénomènes. On va trouver fraude et contrebande dans les sources, ça on va le retrouver. Alors, utilisé de manière plus ou moins logique, c'est-à-dire que nous, on a tendance à vouloir faire une distinction très établie entre la contrebande, la fraude. Dans les sources, on ne le voit pas vraiment. On peut voir mauvais commerce pour désigner voilà, un commerce qui n'est pas tout à fait légal. Bien sûr, pour le vol, tout ce qui est faux, je parlais de faux tabac, voilà, le faux sonnage, c'est le fait de vendre donc, du sel qui est faux en dehors du monopole. La fausse monnaie aussi. On peut aussi voir entreprise, les entreprises criminelles, les pratiques. Parfois, voilà, ils parlent de mauvaises pratiques, les contraventions. Donc, le vocabulaire n'est pas vraiment arrêté, mais en tout cas, voilà, il n'y a jamais ce terme de commerce illicite, mais beaucoup d'autres termes qui s'en approchent.
Et bon, j'imagine que dans tes recherches, tu dois naviguer, oui, entre différents centres d'archives. Est-ce que tu n'es pas trop une chercheuse itinérante, en fait ?
Si, en effet, pendant les premières années de thèse, j'ai été une vraie chercheuse itinérante, puisque j'ai donc navigué en vallée du Rhône, donc entre Lyon et Marseille, mais je suis allée même un peu plus loin, puisque j'ai des archives à Grenoble, à Toulouse, à Paris. Donc oui, j'ai pas mal navigué, à Saint-Étienne aussi. Mais heureusement, le couloir rhodanien contemporain est bien desservi par les transports en commun.
Et donc là, dans ton quotidien de chercheuse, c'était pas trop compliqué ?
Ça a été un peu compliqué, oui, les premières années, parce qu'il y avait beaucoup de déplacements et beaucoup d'attentes aussi de se dire, bon, j'ai une semaine sur place, il faut que je sois efficace, parce que c'est un coût aussi tous ces déplacements. Mais voilà, maintenant, c'est un peu derrière moi, donc ça va mieux.
Et dans tes recherches, raconte-nous, quelles sont tes méthodes ? Comment est-ce que tu travailles sur ces archives ? Tu as dit, bon, tu relèves des choses, mais est-ce que tu fais des statistiques, par exemple, ou quoi ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, comme beaucoup de personnes qui travaillent sur la justice et l'histoire criminelle, je fais une méthode un petit peu à la fois qualitative et quantitative. J'alterne, donc je fais des statistiques, mais pas que, puisque tous les biais qu'on a évoqués, voilà, je ne peux pas avoir des statistiques 100% fiables. Mais je dirais que je m'inspire beaucoup de la méthode micro-historique, en fait, puisque j'accorde beaucoup d'importance au terrain, donc je pars du terrain et je fonctionne un peu par tâtonnement, c'est-à-dire voilà, je cherche dans les tribunaux des affaires qui peuvent m'intéresser. Donc sur place, ça peut s'apparenter à un véritable puzzle, mais c'est passionnant. La micro-histoire est importante aussi puisque j'accorde beaucoup d'importance aux échelles, à la variation des échelles à la fois spatiale, à la fois temporelle. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu décourageant puisqu'on peut passer des heures à chercher sans rien trouver, mais quand on tombe sur quelque chose d'intéressant, la joie est vraiment décuplée. Donc c'est une méthode voilà, qui repose sur une approche qualitative mais aussi quantitative puisque je fais des statistiques bien sûr, mais je l'ai dit, elle comporte des biais. J'ai aussi un problème qui est lié aux inventaires en fait, des archives que j'observe puisque certains sont mieux faits que d'autres et donc j'ai beaucoup d'archives dans certains dépôts, j'en ai moins dans d'autres et donc ça il faudra aussi voilà, l'analyser, le documenter pour ne pas donner l'impression qu'il y a des secteurs du Rhône où il y a plus de contrebande qu'ailleurs et c'est parfois juste un effet de source.
Oui, ouais, l'effet de source est toujours hyper important à mettre en avant, surtout dans ton cas effectivement. Et donc actuellement tu es donc plutôt en période de rédaction de ta thèse, comment ça se passe ?
Oui, je suis en période de rédaction puisque là j'entre en quatrième année de thèse. Donc j'ai fait 3 ans sous contrat doctoral à l'université d'Aix-Marseille. Et là actuellement donc je suis ATER, donc attachée temporaire d'enseignement et de recherche toujours à l'université d'Aix-Marseille. Et je rédige, donc c'est une période intense.
Donc ça veut dire que tu enseignes en même temps que tu rédiges, c'est
exactement,
ça ?
Exactement. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir des périodes d'écriture qui sont régulièrement coupées, puisqu'on a d'autres choses à préparer à côté. Mais pour l'instant, ça avance et ma directrice est satisfaite, donc voilà.
Et est-ce que, alors bon, je sais que c'est un peu compliqué de demander, mais est-ce que tu as commencé à réfléchir à l'après-thèse ? Qu'est-ce que tu vas faire après tout ça ?
Oui, tout à fait, il faut réfléchir à l'après-thèse. Donc moi j'ai un concours en fait de l'éducation nationale et donc là je suis actuellement en fait en détachement dans l'enseignement supérieur pour faire mon ATER justement, mais concrètement après la thèse, j'ai un poste qui m'attend de professeur d'histoire géographie dans l'Académie de Créteil.
C'est-à-dire que tu as passé le CAPES ou l'agrégation ?
J'ai passé l'agrégation.
Oh, t'as eu l'agrégation ? Oh, waouh !
Oui, moi j'ai eu l'agrégation en 2020, donc l'agrégation Covid où il n'y a pas eu d'oral, mais...
D'accord, quand même, c'est quand même dur.
Oui, c'est sûr, mais je pense que voilà, ça m'a, dans mon cas, avantagé de ne pas avoir l'oral, mais donc j'ai eu cette agrégation.
Oh, bah, ça va, tu t'exprimes bien à l'oral quand même, hein.
Merci. Mais donc voilà, il y a une porte de sortie en tout cas pour l'après-thèse, mais pour l'instant je suis un peu au jour le jour, ça me plaît de faire de la recherche, donc pourquoi pas continuer dans l'enseignement supérieur, même si on sait que c'est compliqué, peut-être aller dans l'enseignement en collège, en lycée, ou même changer de voie, en tout cas je ne me l'interdis pas.
Ouais, donc là, c'est plutôt ouvert le champ des possibles pour toi.
Tout à fait.
Non, mais c'est plutôt bien parce que des fois, je reçois des personnes qui vraiment veulent faire quelque chose de spécifique ou alors ne savent pas trop quoi faire et sont un peu perdues. Toi, c'est bien, tu te laisses un peu toutes les portes ouvertes.
Voilà, c'est de pas m'encombrer l'esprit avec ça, de profiter et on verra par la suite.
Pour finir cet épisode, j'ai encore une question aussi. Est-ce que tu aurais un conseil d'endroit à visiter qui serait sur le Rhône et qui, selon toi, n'est pas assez connu ? Voilà, si quelqu'un nous écoute et veut aller se balader sur le Rhône, où est-ce que tu veux les envoyer ?
Alors, c'est une très bonne question, merci, puisqu'il y a beaucoup d'endroits méconnus sur le Rhône. Alors, tout d'abord, pour les auditrices, auditeurs qui seraient amateurs de vélo, il y a la Via Rhôna, donc qui est maintenant un peu connue, mais qui permet de relier en vélo le Léman au delta du Rhône, donc à la Camargue, donc ce qui est assez sympathique. Mais en parlant d'endroits méconnus, j'ai envie de recommander la vallée du Rhône ardéchoise, déjà parce qu'une partie de ma famille est originaire donc de cette région.
Oh oui, bon, conflit d'intérêts, attention madame, là.
Conflit d'intérêts, oui, oui. Mais non, il y a beaucoup de villages, en fait, qu'on ne soupçonne pas. Serrières, notamment, dont je parlais, qui est vraiment un village sympathique et un musée des mariniers d'ailleurs. Alors c'est un petit musée dans une église mais qui est très intéressant et on trouve également des bâtiments du 18e qui étaient d'anciens relais pour les chevaux de halage, donc c'est tout à fait intéressant quand on s'intéresse au Rhône. Et c'est à proximité de l'île de la Platière, donc qui est une réserve naturelle et qui est très belle avec de belles balades. Donc on peut découvrir le Rhône un petit peu, voilà, plus sauvage entre guillemets, mais on peut se rapprocher du fleuve par ce biais-là. Et sur l'Ardèche, vous avez aussi Tournon-sur-Rhône qui a un château qui est assez réputé. Évidemment Saint-Péray et les ruines du château de Crussol, mais qui surplombe le Rhône et qui est vraiment magnifique. Il y a un très bon festival en été si vous voulez y aller. Et puis ensuite, on peut parler de Beauchastel, un village médiéval, la Voulte-sur-Rhône aussi avec son château et ses ruelles médiévales.
Je connais rien de tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça donne envie. Hein.
L'Ardèche du Rhodanienne n'est pas assez connue. On a beaucoup de gens à Vallon-de-Pont-d'Arc, à Ruons, dans le sud Ardèche, mais en vallée du Rhône, il y a des choses à voir. Donc la Voulte-sur-Rhône, même si l'état de conservation n'est pas optimal, mais il y a quand même un château à signaler. Et puis après, plus au sud, vous avez Cruas, Viviers, Bourg-Saint-Andéol.
Voilà, t'en as donné trop, là. Mais voilà. Je mettrai la petite liste que tu viens de dire. Alors, je sais pas si j'ai réussi à tout mettre, hein, mais sur le site, pareil, donc auditeurs, auditrices, si vous voulez préparer vos vacances le long du Rhône, voilà. Alors, pour finir vraiment, maintenant, dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à de jeunes chercheurs et chercheuses? Parce que tu l'as dit, effectivement, qu'il y a plein de sujets à étudier en lien avec le Rhône. Mais déjà, voilà, si tu voulais un peu leur donner un petit conseil pour les guider, tu dirais quoi?
Alors, pour guider les chercheuses et les chercheurs, je leur dirais d'être curieux, déjà, d'aller vraiment voir beaucoup de sources, de croiser les sources, puisque moi, je me suis vraiment rendu compte que, par exemple, les archives militaires, elles sont très importantes pour moi. J'aurais pas forcément pensé au début à aller les chercher. Mais surtout, conseil très pratique, c'est penser à bien organiser vos bases de données, puisque je suis actuellement là en train de travailler et de retravailler, nettoyer mes tableurs Excel qui n'étaient pas parfaits. Et je pense que quand on l'anticipe dès le début de la thèse, ou du mémoire d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple par la suite. Donc voilà. Attention à vos bases de données.
Soignez vos tableurs Excel.
Exactement.
Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous ne verrez plus le Rhône de la même façon. Vous penserez à ce commerce illicite qui était pratiqué, à ces frères contrebandiers qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc merci beaucoup Cécile Bournakera, et ben bonne continuation pour la suite de ta thèse et pour la suite. Hein.
Et ben merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
Oh bah oui, non mais là vraiment on a appris beaucoup beaucoup de choses, et ça me donne plein d'idées pour les épisodes. Et d'ailleurs auditeurs, auditrices, si cet épisode vous a plu, je peux vous renvoyer vers 3 épisodes que j'ai fait qui sont en lien proche ou plus loin. J'ai fait l'épisode 34 sur les femmes dans les révoltes au 18e siècle, mais parce qu'on parlait beaucoup des campagnes lyonnaises. Donc on a vraiment beaucoup parlé de cette région, donc allez voir ça. Si le côté commerce entre des espaces vous intéresse, j'ai aussi l'épisode 31 sur les relations entre la Normandie et le Maroc au 16e siècle, donc on est un peu avant l'époque que tu as étudié, mais vraiment là sur deux connexions entre des espaces beaucoup plus lointains, et là vraiment là, on voyage sur l'océan. Et si pour le coup la Méditerranée vous intéresse, j'avais fait le hors-série sorti en décembre 2019 sur la Méditerranée au 16e siècle avec Guillaume Calafa, qui n'est pas un jeune chercheur, qui est un peu plus établi, mais allez voir, c'était très intéressant et ça peut ouvrir vers plein d'autres sujets. Mais n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de Passion Moderniste, voilà, que ce soit là aujourd'hui on a parlé d'histoire économique et sociale et tout ça, mais si l'histoire de l'art vous intéresse, si l'histoire des femmes, vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses sur Passion Moderniste, voilà, on commence à avoir une bonne base d'épisodes. Et si l'histoire médiévale vous intéresse, je vous propose aussi mon autre podcast Passion Médiéviste. Et si l'histoire antique vous intéresse, et oui, et là il y a Passion Antiquité, alors il y a un peu moins d'épisodes sur Passion Antiquité parce que je l'ai commencé plus récemment, mais quand même, là, il y en a notamment pas mal sur la Mésopotamie, qui est une de mes passions dans la vie, donc allez voir tout ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à le partager autour de vous. Voilà, si vous avez de la famille qui habite près du Rhône, bah, c'est le moment d'envoyer l'épisode pour dire « Mais est-ce que tu connais ça ? Je suis sûre que tu vas découvrir des choses à votre tonton, à votre tata. » Les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, allez hop, on envoie tout ça. Merci beaucoup si vous le faites parce que vraiment, bah, ça, c'est le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux en fait pour faire découvrir les podcasts. Donc je compte sur vous. Et dans le prochain épisode de Passion Moderniste, alors, ça va être un petit peu spécial parce que ce sera la deuxième édition d'un hors-série que j'avais fait et vous allez entendre des interviews qui ont été réalisées à Blois sur des sujets de thèse transformés en jeux vidéo. Voilà, à bientôt!
Là-haut dans le nord où il y a du vent, contrebandier tout comme son père, il avait la peau dans le sang. Il attendait les nuits sans lune, quand il fait sombre on passe bien mieux, pour s'enfiler par les grandes dunes, où le vent de la mer vous pique les yeux. Oh et la douane, oh et les gabelous, lâchez tous les chiens, et puis planquez-vous au fond de vos cabanes. Regardez sur la dune, l'homme qui passe là-bas, il est pourtant seul, mais vous ne l'aurez pas, il se fout de la douane. Au fond de vos cabanes, allez planquez-vous et lâchez les chiens, ohé les gobelots, ohé la douane.